Merci de votre invitation, mais vous dire que je suis un intrus dans cette journée, vous le devinez bien, puisque je suis philosophe et que je n'ai pas de rapport direct, voire indirect, avec la psychiatrie. Mais je vais essayer d'aborder la question, non pas de la personnalité, mais des fixations de l'individu, en faisant jouer l'écart dans lequel je travaille entre pensée chinoise et pensée européenne. Et donc essayer de rattaquer de biais la question qui vous intéresse aujourd'hui, en m'interrogeant sur le phénomène de fixation psychologique, comme nous disons nous en Occident, et la façon dont la pensée chinoise peut, comme cela, indirectement, nous montrer comment débloquer les fixations pour rendre la vie à sa fluidité. Alors, je partirai du verbe le plus commun à toutes les langues, verbe souche de l'humanité, c'est le verbe nourrir. Nourrir, quel verbe plus élémentaire que celui-là, puisqu'avant même de naître, on est déjà nourri. Et ce verbe, pourtant, se fend en deux dans la tradition européenne, tradition grecque d'abord, parce qu'il est tendu entre deux emplois, l'emploi concret, nourrir son corps, et puis l'emploi figuré, nourrir son âme. C'est ce que on trouve déjà chez Platon, dans l'idée que la fonction du philosophe, sa vocation, c'est bien de nourrir l'âme, de la nourrir par la vérité. Et cette façon dont le verbe nourrir, verbe plus élémentaire qu'on puisse imaginer, n'est-ce pas, se fend en deux, se dissocie entre ce qui serait de l'ordre du corps et puis de l'autre, de l'âme. C'est ce que ensuite la tradition patristique n'a cessé de reprendre dans un schéma platonicien, puisque vous savez bien qu'il y a le lait des Écritures, les légumes pour ceux qui ont encore du mal à croire, mais la chair de l'agneau pour ceux qui sont vraiment, proches du salut. Bref, cette scission entre le sens propre et le sens figuré a cessé de nous traverser en Europe. Même, vous voyez, quand Gide écrit les nourritures terrestres, il est encore dans ce pli-là, puisque bien sûr il s'agit de nourriture spirituelle, mais ramenée à ce qui serait le terrestre, c'est-à-dire ce qui ne serait plus la fuite dans la spiritualité. Bon, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a donc une fissure au sein de ce verbe et quelque chose qui est laissé, je dirais, dans l'entre-deux, qui est entre ces deux grands S que sont la santé et la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il me semble que la pensée européenne a laissé en friche, si vous voulez, le rapport des deux. Et qu'entre donc ce qui est de l'ordre du médical et ce qui est de l'ordre du psychologique, eh bien, nous n'avons pas vraiment conçu de liaison. C'est ce qui fait, je crois, d'ailleurs, fleurir si abondamment tout ce qui relève aujourd'hui du développement personnel, de ce qui est cette sorte de paramédecine ou parapsychologie, puisqu'effectivement, dans l'entre-deux, il n'y a que du para qui puisse se mettre pour essayer de mettre à côté ce qui est dissocié. Donc il me semble que c'est ce qui fait cette abondance de littérature, pour moi de sous-littérature, touchant au bien-être, à la santé, au vital, et tous les magazines qui, disons, prospèrent sur ce marché. Donc il y a bien peut-être quelque chose que nous devons laisser par mégarde, en friche, entre santé et spiritualité. Et c'est pour essayer d'enfoncer un coin dans cette friche que je voudrais évoquer une formule chinoise de l'Antiquité, mais qui est toujours active dans la réflexion chinoise d'aujourd'hui, ou dans l'usage familier de la langue chinoise d'aujourd'hui, qui est « nourrir sa vie », yangsheng. Nourrir sa vie, c'est-à-dire au fond, c'est une expression qui apparaît dans la Chine ancienne avec la contestation que suscite la pensée ritualiste. On appelle comme ça, communément, confucéenne. Une réaction qui est de dire, mais non, ma vie, c'est quoi? C'est mon potentiel vital. Ce n'est que ça. Il n'y a pas de nature humaine qui vienne d'ailleurs que de cette capacité que j'ai d'être en vie. Donc ma vie, c'est mon potentiel vital, xing sheng ye. Et l'idée donc que développe la pensée chinoise à partir de là, c'est que nourrir sa vie, ce n'est pas restrictivement nourrir son corps, ce n'est pas seulement nourrir son corps, mais ce n'est pas non plus nourrir son âme. Nourrir sa vie, c'est quoi? Eh bien justement, c'est penser la vie comme un capital d'énergie, de vitalité, et qu'il faut affiner. Et on l'affine pourquoi ? Pour le rendre plus délié, pour le rendre plus fluide. Puisqu'au fond, ma vie, c'est d'énergie. Et cette énergie, soit elle se rigidifie, s'opacifie, et finalement se bloque, se réifie, comme on dit. Soit elle peut se déployer, s'animer, se fluidifier. Et donc, ce que nous apprend la pensée chinoise à cet égard, c'est d'une vitalité qui tend à devenir inerte, donc entraînée à des fixations, au contraire, la rendre alerte. C'est dans ce jeu sémantique-là que je voudrais essayer de dépasser nos fameux dualismes. Donc, de l'inerte à l'alerte. Alerte, déliée, fluide. C'est-à-dire, se défaisant. Alors, vous pouvez trouver l'expression un peu trop liée au ski. Défaire ses fixations, c'est ça, n'est-ce pas ? Défaire ses fixations, c'est-à-dire rendre fluide ce qui s'est coincé. Alors, je crois que voilà, c'est comme ça que les Chinois ont compris nourrir, dans nourrir sa vie, qui n'est pas, encore une fois, restrictivement nourrir son corps par des aliments matériels, qui n'est pas non plus nourrir son âme par la vérité, qui est nourrir la vitalité qui est en moi. Et pour cela, que faut-il faire ? Eh bien, il suffit d'ouvrir les textes chinois classiques, notamment le Zhuangzi. Eh bien, il faut affiner, subtiliser, rendre souple, délier, Qing Shen. Alors, cette expression chinoise très intéressante parce qu'elle nous dit Qing, c'est affiner. Qing, c'est d'abord la fleur du riz, mais c'est l'esprit au sens où on dit l'esprit du vin, ou c'est aussi le sperme. C'est donc toutes ces matières affinées, décantées, subtilisées. Et donc, qu'est-ce que c'est que renforcer, activer sa vitalité ? C'est justement subtiliser en soi, affiner, quintessentier. Vous voyez, j'ai des termes évidemment qui sont tous un peu maladroits parce que nous avons du mal avec l'outillage théorique européen à dire ce qui se trouve à l'entre-deux, encore une fois, du physique et du psychologique. Donc, bien sûr, ça fait des termes un peu alchimistes ou un peu, disons, étranges. Mais donc, cette activité de affiner, subtiliser, quintessentier la vitalité de façon à la rendre plus vitale, plus alerte, plus en mouvement, plus fluide, et non pas opacifiée et donc se réifiant, s'enlisant, ce qu'il faut évidemment essayer d'éviter. Donc, désentraver, désobstruer sa vitalité pour la rendre fluide, alerte, ne pas laisser l'énergie en soi s'opacifier, se bloquer, se réifier et s'user. D'où le thème qu'on trouve souvent dans la littérature taoïste de la Chine ancienne, de dialogue avec une vieillarde qui a 90 ans et qui a le teint frais comme un jeune enfant. Alors on me demande pourquoi, comment ça se passe, comment peut-on garder ce teint de poupon quand on est si âgé ? Eh bien, on nous l'explique, c'est parce que, justement, cette personne a su se désentraver sa personnalité, c'est-à-dire la libérer de toute fixation pour la laisser constamment fluide, en allant, et donc sans jamais s'user. Alors, je voudrais vous en donner un exemple à propos d'un dialogue qu'on trouve dans le Zhuangzi, grand texte donc, de la littérature taoïste de la fin de l'Antiquité. Un prince, parce qu'en Chine c'est toujours comme ça, il y a toujours un prince et un maître, n'est-ce pas, c'est dans, qui interroge un maître en lui disant « J'ai entendu dire que votre maître, maître du maître, vous a appris ce qu'était nourrir sa vie. Pouvez-vous donc me le rapporter ?» Et le maître, mais comme tout maître en Chine qui a eu son maître, hein, répond « Oh, vous savez, moi... Je me suis contenté de balayer à la porte de mon maître. » Évidemment, ça paraît une non-réponse. En fait, c'est déjà une réponse. Une double réponse. Parce que d'abord, balayer à la porte du maître, ça signifie qu'il ne répond pas parce qu'il pense que le prince n'est pas capable de comprendre. On ne répond en Chine que quand on pense que l'autre peut entendre la réponse. Sinon, on le laisse dans une déception, une non-réponse. C'est ce que d'ailleurs la tradition du Chan ou du Zen fera de façon systématique. On laisse l'autre déçu et, disons, géré cette non-réponse qu'il a entendue. Et puis, dans la réponse, il y a déjà quelque chose d'autre qui est de dire balayer. Balayer, c'est nettoyer le terrain. C'est justement dégager ce qui entrave, tout ce qui enliserait la vitalité. Balayer, c'est ce qu'il faut faire en soi. Il faut balayer en soi, n'est-ce pas ? Et puis balayer, c'est modeste, n'est-ce pas ? C'est pas héroïque, mais c'est cette activité de tous les jours qui entretient et qui donc fait qu'effectivement, au lieu que la poussière s'accumule et qu'on n'arrive plus à passer, non, eh bien, on aménage de façon à ce que ce soit toujours net pour que l'énergie puisse se manifester. Bon, mais le prince ne se contente pas de cette réponse, qui est trop simple, donc trop difficile pour lui. Et sur l'injonction du prince, il rajoute quelque chose, il dit « Nourrir sa vie, c'est comme faire paître des moutons. » En chinois, yang, peut-être à la fois homonyme, n'est-ce pas, du mouton, et nourrir. C'est comme faire paître des moutons. Quand on voit des moutons qui traînent à l'arrière, on les fouette. Alors, je trouve la formule importante, parce que, voyez, cette image du troupeau de moutons qu'on fait avancer, c'est pas le pasteur qui serait à la tête du troupeau et qui conduirait son troupeau vers une terre promise, vers un but, vers... Non, non, le pasteur, il est derrière, c'est pas derrière son troupeau, et il laisse le troupeau aller comme ça devant. Mais s'il voit des moutons qui se mettent à brouter ici ou là et qui s'arrêtent, et qui donc retarderaient l'avancée du troupeau ou qui feraient dissidence dans ce troupeau, ben, il les fouette pour que tout ça, ça continue d'avancer. Alors, je trouve l'expression... on n'en dit pas plus en chinois, n'est-ce pas? On vous laisse là sur cette image. Mais je crois qu'elle est importante à réfléchir parce qu'elle peut se lire aussi bien, me semble-t-il, de façon physiologique que morale ou que psychologique. Si on garde les termes européens, bien sûr. C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qui traîne en moi? Qu'est-ce que je vois qui traîne en moi, à titre aussi bien de disposition, de fonction, de pulsion, de sentiment, d'affect, n'est-ce pas? Et que j'aurais donc à fouetter pour le rappeler à l'ordre. À l'ordre de quoi? À l'ordre qui est celui seulement de continuer d'avancer. De continuer d'avancer. Il n'y a pas de direction, n'est-ce pas? Mais il y a ce mouvement qu'il faut maintenir, se maintenir en évolution. Ça, c'est la pensée de la vitalité. Donc, le pousser, lui aussi, à continuer d'avancer. Et il me semble que la formule peut s'interpréter aussi bien sur un plan médical et pathologique. Les cellules qui se séparent de l'évolution d'ensemble, eh bien, c'est celles qui s'atrophient ou se cancérisent. Donc, il faut maintenir cette sorte de cohésion de quelque chose qui, comme ça, d'un même rythme, plus ou moins, va de l'avant, continue à avancer. Que sur un plan analytique, le névrosé, c'est pas, demeurant attaché à tel ou tel événement de son passé, au lieu que sa vie psychique continue d'avancer, continue d'évoluer. Donc, contre ce qui serait vu d'un point de vue analytique comme la paralysie du psychisme par adhérence et fixation, en termes de fixation que je veux donc essayer de défaire. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'important parce que c'est cette idée, vous voyez, l'idée qui apparaît, c'est que vivre, c'est quoi? C'est maintenir en élan, en allant, n'est-ce pas, son potentiel de vie, en faisant que sa vie ne s'enlise pas, et ne s'enlise pas, ne s'opacifie pas, ne se réifie pas, mais demeure alerte, n'est-ce pas, alerte. Alerte s'opposant à inerte. Alors, il y a un passage qui le dit, un très beau texte connu maintenant en Europe, et que je voudrais vous lire parce qu'il met ça en scène. Là encore, entre alors, un prince et un artisan, parce que, et je pense que c'est important par rapport à ce souci qui est celui de votre pratique, c'est que la pensée chinoise, notamment taoïste, n'interroge pas des lettrés. Elle interroge des personnes qui sont dans, je dirais pas l'action, mais qui essaient d'élaborer des procédures. Et vous savez, le terme chinois tao signifie à la fois processus et procédure, c'est les façons d'opérer, la façon dont le monde opère pour se renouveler, la façon dont nous tous nous opérons. Donc le terme signifie à la fois le Tao, comme les Européens en rêvent, n'est-ce pas, le Tao, la voie, en même temps c'est la recette, n'est-ce pas? C'est-à-dire toutes les façons de procéder. Voilà un passage qui est donc entre un prince et un boucher. Un boucher, et la question néanmoins du chapitre, chapitre 3 du Zhuangzi, c'est nourrir la vie. Yangsheng. Le boucher Ding dépeçait un bœuf pour le prince Wenhui. À la façon dont de la main il tenait en poignée l'animal, le gardait calé contre son épaule et, le pied bien assuré sur le sol, le maintenait sous la pression de ses genoux, il s'en échappait si musicalement des « hua » et son couteau évoluait si bien en cadence en laissant entendre des « hua » qu'il rejoignait de bout en bout un air de musique, tantôt s'accordant avec la danse du bosquet des bambous, tantôt rejoignant la mélodie des têtes au plumage. Vous voyez donc qu'il fait circuler le couteau comme sur un air de ballet. « Admirable, vraiment !» s'exclama le prince. « À quoi peut-on à quoi peut en arriver la technique ? Le boucher déposa son couteau et répondit : Ce dont je suis épris est le Tao. Et cela dépasse toute technique. Quand je commençais à dépecer des bœufs, je ne pouvais m'empêcher de voir le bœuf tout entier. Puis, 3 ans plus tard, celui-ci ne s'imposait plus à moi tout entier, c'est-à-dire tout entier aussi massivement. C'est plus la masse du bœuf qui s'impose à moi. À présent, je le rencontre par une appréhension décantée, ting, c'est pas épurée, décantée, affinée, au lieu de le regarder seulement par les yeux. Vous voyez le passage de ce qui serait la passion physique, voir par les yeux ? Non, et là, voir par une énergie décantée, affinée. Nous, évidemment, en français, on va traduire esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit séparé du corps, c'est cette activité en moi qui, se décantant, s'affinant, fait que j'ai une perception plus fine, plus subtile de l'animal devant moi. Quand le savoir des sens s'arrête, ma faculté décantée, affinée, aspire à le relayer en s'appuyant sur la structure naturelle de l'animal. Je m'attaque ainsi aux grands interstices et conduis ma lame au travers d'amples passages en épousant la conformation interne. Si je ne touche pas les veines, ni les artères, ni les muscles, ni les nerfs, à plus forte raison, en va-t-il ainsi des grands os. Et voici, un bon boucher doit changer de couteau tous les ans, parce qu'il tranche la chair. Un boucher ordinaire doit changer de couteau tous les mois, parce qu'il brise les os. En voici 19 ans que je fais ce travail, j'ai dépecé des milliers de bœufs, et le fil de mon couteau est toujours aussi neuf que s'il venait d'être aiguisé. Néanmoins, chaque fois que j'arrive à un point d'entremêlement, je considère les difficultés et, sur mes gardes, le regard attentivement fixé, opérant lentement, je manie le couteau le plus délicatement, hein, ho, et c'est défait, comme si c'était un peu de terre qu'on déposait sur le sol. Je relève alors mon couteau et me redresse. Je regarde des divers côtés et me délasse en trouvant mon contentement intérieur. Après avoir remis mon couteau en état, je le range dans son fourreau. Fin d'anecdote. Admirable, vraiment, s'exclama le prince. En entendant les paroles du boucher Ding, je comprends ce que c'est que nourrir sa vie. Vous voyez qu'il n'est pas commenté en quoi cette image du bœuf découpé par le boucher Ding peut être, disons, évocatrice de l'activité de nourrir sa vie. Donc tout est à lire, tout est à comprendre dans l'interstice entre le récit qui est fait et le commentaire du prince qui dit deux fois admirable, admirable, quelle belle technique, puis après admirable, ah non, j'ai compris, admirable, quelle façon de nourrir sa vie. Alors qu'est-ce que c'est que nourrir sa vie à partir de l'image du boucher dont l'outil, le couteau, arrive à passer en défaisant la chair du bœuf, à passer toujours dans du vide, dans de l'interstice, donc en ne rencontrant jamais quelque chose qui l'arrête, donc qu'il puisse user la lame du couteau. Oui, c'est ce qui est développé ici, c'est qu'il a une telle appréhension affinée de ce qu'il fait que son outil, le couteau, peut circuler toujours dans du vide, dans de l'interstice, et ne rencontre jamais quoi que ce soit qui l'arrête ou contre lequel la lame pourrait s'émousser. D'où ce couteau, il peut le garder pendant 19 ans, et il est toujours aussi comme ça, aiguisé qu'au début. Ce qui me paraît important à cet égard, c'est donc que vous voyez ce que signifie cette image, c'est que la vitalité, nourrir sa vie, c'est maintenir dans la circulation. C'est ne pas rencontrer de résistance, rien rencontrer qui puisse venir émousser et, disons, enliser la capacité de la vitalité. Je lis aussi ce texte parce qu'on a exactement le parallèle dans Platon, qui est, où Platon dit que le métaphysicien, c'est quelqu'un qui découpe un bœuf. Vous avez le même motif culturel entre deux côtés qui ne se fréquentaient pas, la Chine d'un côté, la Grèce de l'autre, à la même époque, 4e siècle avant notre ère, chez Zhuangzi d'un côté, chez Platon de l'autre. Mais la découpe du bœuf chez Platon est tout autre. Parce que quand Platon dit que le philosophe est comme le boucher qui découpe un bœuf, toujours le bœuf, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce que le philosophe platonicien est celui qui sépare les essences des choses comme le boucher sépare les parties du bœuf. Donc dans la vision platonicienne, il s'agit de découper par analyse, analyse et synthèse, analyse pour trouver les éléments constituants. Donc il s'agit de passer d'une totalité à ses composants en respectant les frontières des éléments. Alors qu'ici, ce n'était pas du tout ça. Ici, il s'agit, au contraire, d'un découpage qui ne tient pas du tout compte du rapport des parties du tout, vision grecque, mais qui est dans cette façon de percevoir, au sein même de ce qui est le plus opaque, eh bien, des voies de circulation possibles. Alors, je voudrais... voyez qu'en entrant dans cet écart-là, ça fait bouger beaucoup de choses. En tout cas, deux que je voudrais citer très rapidement. D'une part, le rapport de ce qu'on appelle l'âme et le corps. D'autre part, ce qu'on a appelé le bonheur. Ce qu'on a appelé du côté occidental, bien sûr. Parce que vous voyez qu'au fond, ce qui se met en jeu là, du côté chinois, et je trouve que c'est à réfléchir, me semble-t-il, en tout cas, c'est ce que je soumets à votre réflexion, du point de vue de ce qui se trouverait à... dans l'entre-deux du médical et du psychologique, de la santé et de la spiritualité, qui est qu'au fond, qu'est-ce que je suis, moi ? Je suis, eh bien, un potentiel d'énergie. Et l'énergie que je suis, souffle, énergie, chi, on dit en chinois, soit je la laisse, eh bien, s'opacifier, se réifier, et finalement, entrer en résistance avec tout et s'user, soit au contraire, l'affinant, le décantant, le subtilisant, je rends ma capacité énergétique agile, alerte, et donc ne s'usant pas, continuant d'évoluer. C'est ce qui fait que la Chine n'a pas pensé de statut d'âme. S'il y a une chose qui est vraiment impliquée chez les Grecs, mais déjà chez Homère, c'est qu'il y a un principe de vitalité qui se sépare du corps, la mort. Déjà pour les héros grecs sous les murs de Troie, et bien sûr ce principe de vitalité qui, disons, survit à la mort, qui va, on ne sait pas trop où, chez Hadès, la philosophie grecque l'a ensuite dotée de conscience, bref, jusqu'à en faire cette instance qui est le propre de l'humanité, qui est l'âme. Et quand vous ouvrez le Phédon de Platon, on vous dit comme une chose qui va de soi qu'il y a d'un côté soma, le corps, et de l'autre côté psyché, l'âme. Après, on discutera si l'âme est immortelle ou pas, mais il y a une chose dont les Grecs ne doutent pas, parce que la langue le dit, c'est qu'il y a de l'âme. Or, du côté chinois, il n'y a pas vraiment de notion d'âme. Il y a des principes comme ça, enfin des principes, des énergies, des souffles, qui à la mort montent, d'autres descendent, mais l'idée c'est celle d'une animation. La Chine ne pense pas en termes d'âme, c'est-à-dire de faculté, mais d'animation, c'est-à-dire justement de capacité de vitaliser, d'énergétiser, bref, de maintenir dans cet état alerte la pensée. Parce que qu'est-ce que je suis ? Je suis donc une actualisation d'énergie, soit cette énergie je la laisse se réifier et devenir inerte, soit au contraire, la sagesse, c'est de la rendre justement circulante, animante, et donc ne s'usant pas. C'est ce qui fait, alors évidemment, ça fait longtemps qu'on s'interroge en Europe pour savoir si on a une âme, mais je ne vois pas qu'on s'interroge en Europe sur « avons-nous un corps ?» Sauf d'un point de vue métaphysique, à la façon de Descartes, mais une fois qu'on a posé ce doute-là, on le reprend aussitôt. Et ce qui me paraît le plus intéressant dans cette vision chinoise, c'est qu'elle dérange non seulement la notion d'âme, mais aussi celle de corps. Puisqu'en fait, je n'ai pas de corps. Je suis ce potentiel d'énergie, cette actualisation d'énergie. Et le corps, c'est ce qui, d'énergie en moi, s'opacifie. De même que ce que j'appellerais l'âme, c'est ce qui, d'énergie en moi, se vitalise ou, disons, se déploie, s'anime, bref, en fonction des deux mouvements d'opacification yin ou d'expansion, de dilatation, d'animation yang. Donc l'idée, au fond, chinoise, je crois, c'est que plus je m'affine, plus je m'anime, n'est-ce pas ? Et donc, que ce qu'il faut faire, c'est maintenir en soi cet état justement circulant, communiquant, animant, qui fait que eh bien, la vitalité ne cesse de se renouveler, et donc qu'elle ne s'use pas, et qu'on peut avoir 90 ans en gardant le teint d'un poupon. Donc, voyez ce que ça dérange de conceptions qui sont si installées dans la pensée européenne qu'on ne songe même pas à les interroger, notamment celle du corps. L'autre conséquence essentielle à mes yeux, c'est que ça dérange quelque chose à quoi, me semble-t-il, la pensée européenne est nécessairement attachée, qui est le bonheur. Puisqu'au fond, du côté grec, qu'est-ce qui a été mis comme ça, comme finalité de la vie éthique ? Les Grecs l'ont nommé d'un mot, c'est le bonheur. Et qu'est-ce qui fait que la pensée du bonheur s'est développée en Grèce pour fonder la vie morale ? Ben, je crois justement parce qu'elle s'est appuyée sur deux piliers. L'un, c'est l'âme. L'âme comme instance propre, celle qui est sujette au bonheur, en tout cas telle que la philosophie la déploie. Et puis l'autre, c'est la construction par la finalité. L'idée, n'est-ce pas banale des Grecs, c'est que tous mes comportements sont en vue de quelque chose. Le premier mot de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, c'est ephiestai plus génitif, tendre vers. Et on vous dit, même Aristote vous dit, quand je me promène, c'est en vue de la santé. Je ne fais rien qui ne soit pas en vue d'eux, sinon c'est vain. Donc ma vie morale, ma vie psychique, c'est toujours des conduites, des comportements qui sont en vue d'eux. Et cette envie d'eux, il est même en vue d'autre chose. Et donc ma vie est faite comme de façon pyramidale, avec des fins secondes qui convergent vers des fins qui les dépassent, et ces fins qui les dépassent convergent vers d'autres fins qui les dépassent encore, jusqu'à ce qu'il y ait une fin qui soit la fin dernière, la fin ultime, la fin des fins, la fin qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même, que les Grecs ont appelé le souverain bien ou le bonheur. Donc on a cette construction comme ça, pyramidale de l'existence, tendue vers une fin. Et je crois que c'est sur cette base-là, de l'âme comme instance propre d'une part, et de la finalité de l'autre, qu'on a conçu l'idée du bonheur comme étant la fin de l'âme. Or, de ce que je dis si rapidement, de nourrir sa vie telle que le dit la formule chinoise, Yang Sheng, vous comprenez pourquoi, au fond, le bonheur n'intéresse pas la pensée chinoise ancienne. Il y a bien sûr dans la Grèce archaïque, comme dans la Chine archaïque, l'idée de félicité qui vient des dieux, mais autant on voit cette notion de daimonia chez les Grecs se développer, justement, par la finalité et par l'âme, pour aboutir à dire le bonheur, comme absolu de l'humanité, autant du côté chinois, on voit que, finalement, il nous est dit, le bonheur, c'est de la fixation. C'est justement se donner une cible, c'est se donner un but, et donner donc cela comme une sorte d'objectif de l'âme. Donc le bonheur, c'est encore réifier. C'est perdre cette fluidité, c'est perdre cette alerte de la vie qui est à préserver. Alors, je crois qu'on l'entend d'ailleurs, nous, dans notre vocabulaire le plus familier. Quand on dit « être en forme », « je suis en pleine forme », on ne dit pas « je suis heureux ». Je crois que dire « être en forme », on dit vraiment un sens chinois. Parce que quand je dis « je suis en forme », je ne dis pas que mon corps est bien. Je ne dis pas non plus que c'est mon âme. Quand je dis « je suis en forme », je crois qu'on dit justement qu'on est dans cette vitalité expansive qui, disons, se satisfait sans justement projeter de la finalité, du bonheur, etc. Être en forme, être en pleine forme. Qu'est-ce qui s'oppose à la pensée du bonheur en Chine, en tout cas dans le cadre taoïste? Eh bien, il y a un mot qui le dit fortement, c'est « il faut évoluer ». Yo. Évoluer, c'est la clé de l'eau. Et puis, cette image donc de rester en souplesse. Donc, évoluer, c'est ne pas se fixer. L'expression constamment reprise de Zhuangzi, c'est « le sage évolue dans le Tao comme le poisson dans l'eau ». Être comme un poisson dans l'eau, c'est ça. Alors, ce n'est pas le bonheur, mais c'est cette façon de, bah, de ne jamais s'arrêter, s'enliser, mais continuer d'évoluer, comme ça, de façon souple. Un poisson ne va pas quelque part, c'est pas, mais au gré. Donc, évoluer, ce qui fait paraître donc, le bonheur comme de la fixation, dont il faut se déprendre pour rendre la vie à son allant, à, son, disons, à sa disponibilité. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure sur, en fait, trois choses. La première, c'est que la Chine est intéressante à cet égard parce qu'elle nous dit qu'il n'y a pas le mal, plutôt que ce qu'on appellerait, nous, le mal, le non-bien, donc, en chinois, Pushan, c'est de l'obstruction, c'est de la fixation. Il n'y a pas d'autre conception du mal que le fait que ça se bloque, que ça se coince. C'est ça, le mal. Alors, si vous pensez à ce thème qui est le thème chinois le plus courant, celui du Tao, de la voix. La voix chinoise de Tao, ce n'est pas une voix qui mène à la vérité, à la révélation. Non, la voix, c'est par où ça passe, par où ça ne cesse de passer. Et je pense que là encore, il y a un mot qui dit très bien ce qu'est la voix chinoise, dont les occidentaux font une sorte de chose absolument mystique, ce que ce n'est pas en Chine. Moi, je traduirais la voix chinoise par ce mot qu'on se dit tous les matins pour se dire bonjour, ça va, ça va, ça va. Ben, ça va, ça dit cette fluidité de la vie, ça va. C'est-à-dire que ça ne cesse de passer. On ne dit pas est-ce que je suis heureux. Non, on dit ça va. Ça va, c'est-à-dire qu'il y a du cours qui se maintient en cours. Alors le Tao, c'est ça. Donc, je crois que la première idée importante, c'est qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a que de l'obstruction de la voie, du coincement. Et donc, ce qu'il faut faire pour nourrir sa vie, c'est décoincer ses fixations pour rendre la vie à sa fluidité, la rendre alerte. Et puis, je voudrais, si je reporte ça du point de vue du discours, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'écrire un petit livre, et j'étais surpris de voir que les psychanalystes s'y intéressaient. C'était sous le titre « Si parler va sans dire ». Et je ne savais pas que je parlais de choses analytiques, Mais des amis psychanalystes m'ont abordé en me disant, mais si parler va sans dire, c'est ce qu'on fait nous dans les cures. On dit aux patients, parlez, mais surtout ne cherchez pas à dire. Hein. Et je crois qu'effectivement, ça fait paraître que la parole, elle aussi, peut être fixation. Et donc, nous invite à penser ce que serait une parole qui ne serait pas fixante. Et si je reprends très rapidement ce qui était mon point de départ, c'est je partais de cette phrase d'Aristote dans la Métaphysique qui nous dit ceci, « Parler, c'est dire, legein, c'est legeinti. Parler, c'est dire, dire, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. » Et là, vous avez donc un segment qui est, je dirais, le segment grec par excellence. Parler, c'est dire. Dire, c'est dire quelque chose, il y a un objet du dire qui fixe le dire. Et dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. Donc il y a toujours un ti, un quelque chose comme objet du dire. Et si dire n'a pas de ti, de quelque chose qui soit son objet, il est vain, il est inconsistant, dit Aristote. C'est ce qui conduit Aristote à penser, à partir du fait où, quand je parle, je dis quelque chose, à la pensée du principe de non-contradiction, qui est le principe, disons, fondateur de notre raison chez les Grecs. Donc voilà une conception du dire, qui est une conception, parler c'est dire, dire quelque chose, signifie quelque chose, qui sera le support de la pensée du discours de la science, qui est le discours de vérité. Vous voyez bien que quand tout le propos que j'esquisse du côté chinois déstabilise ou déracine une notion fondamentale de notre pensée, qui est la vérité. Alors que si l'on regarde un peu les arts de parole de la Chine ancienne, on voit au contraire que parler, ce n'est pas dire, et surtout pas dire quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui vienne fixer en tant qu'objet la pertinence du dire. Mais on dit en chinois dire à peine. Dire, c'est toujours dire à peine, dans le Laozi, n'est-ce pas ? Dire à peine, c'est-à-dire on ne fait que commencer à parler. Si vous lisez les entretiens de Confucius, vous verrez que Confucius ne fait que ça. Il ne dit pas au sens où il n'enseigne pas, il n'y a pas de message, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas d'objet de son dire. On parle de n'importe quoi, Confucius. Mais il commence à dire, c'est-à-dire qu'il dit à peine, c'est-à-dire je reviens à cette notion de subtil, c'est le même terme, wei-yen, propos subtil, propos ténu, propos fin qui ne cesse, quelle est sa fonction ? Eh bien, de décoincer là où se trouve le disciple. Le disciple est coincé dans une certaine position, et la parole de Confucius, c'est ce petit coup de pouce qui décoince là où l'autre, le disciple, se trouve coincé, enlisé, n'avançant plus. Ou on dit encore dire à côté, ou dire en extravagant. Bref, tous ces dires qui sont latéraux, qui ne cherchent pas à dire quelque chose, mais qui, de biais, stratégiquement. Vous voyez, par exemple, dire à côté, c'est ce qu'on appelle en Chine le pinceau de biais. Quand on demande, alors qui vaut autant pour la peinture que pour la parole, quand on demandait au concours en Chine, à l'époque classique, de peindre, par exemple, un monastère, ben personne ne peignait un monastère comme objet de la peinture. Qu'est-ce qu'on peignait ? Non pas des murs, des tours et des moines. On peignait toujours, comme toujours, un paysage, des montagnes et des eaux, donc de l'animation cosmique, et puis, sur un chemin, un petit moine portant l'eau. Et évidemment, le moine portant l'eau indiquait une proximité de quelque chose qui, ailleurs, devait être le temple. Mais voyez, au lieu de saisir ce qui serait l'objet du dire en le fixant, eh bien non, on évoque ce qu'on appelle en Chine une atmosphère, une ambiance. L'ambiance du temple, c'est pas avec des murs et des personnages que vous la figurez, c'est justement par un paysage où quelque part, quelque chose finement, subtilement, fasse signe, disons, à cette proximité. Bon, tout ça pour essayer d'opposer à l'expression aristotélicienne « dire quelque chose », ce que j'appellerais, à partir des Chinois, dans cette idée d'une parole en évolution, comme le sage doit être en évolution, donc sans jamais se fixer, eh bien, dire au gré. Dire au gré, c'est une formule chinoise qui serait à mettre en face du dire quelque chose d'Aristote. Or, il me semble que dans la parole analytique, il y a quelque chose qui doit ressembler à ça, que le dire au gré. En plus, dire au gré, la formule, je la prends, oui, dans les textes chinois, mais je la prends aussi chez Mallarmé, puisque j'ai le sentiment que la poésie moderne européenne s'est constituée pour une large part en révolte contre le dire quelque chose d'Aristote, le dire du logos, le dire de la science, et magistralement, Mallarmé nous dit « dire au gré » comme fonction de la poésie, me semble-t-il aussi peut-être, dans le contexte de l'analyse. En tout cas, une notion que je voudrais essayer de dresser face à celle de fixation, qui serait la disponibilité. Alors, je dis bien que disponibilité, c'est une notion faible chez nous. On la trouve au mieux en contexte gidien, n'est-ce pas ? Un rapport à l'intériorité et de façon, à mon sens, douteuse. Non, je crois que c'est une notion faible chez nous, mais qui justement serait peut-être à déployer à l'envers de la fixation, comme disons justement la non-fixation. Je voudrais en citer une formule que je prends chez Confucius, qui tient en 8 mots. Il est dit, il y a quatre choses que le maître n'avait pas, quatre choses dont il s'abstient, ou dont il est dispensé, qui ne l'entache pas. Et il est dit donc, sans idée, sans nécessité, sans position, sans moi. Les quatre sans qui définissent Confucius. Sans idée. Il n'y a pas d'idée auquel il s'attache. Comme il n'a pas d'idée à laquelle il s'attache, il n'y a pas de nécessité qui s'impose à lui. Il n'y a pas de « il faut ». Et comme il n'y a pas de « il faut » qui s'impose à lui, eh bien, il n'y a pas de position dans laquelle il s'arrête. Et comme il n'y a pas de position dans laquelle il s'arrête, il n'y a pas de « moi ». Il n'y a pas de « moi ». Alors, les traducteurs, si vous regardez les traductions courantes aujourd'hui en français de ces entretiens de Confucius, les traducteurs ont été mal à l'aise et, par exemple, ils ont traduit « sans idée en l'air » ou « sans idée toute faite ». Pas besoin d'être Confucius pour ne pas avoir d'idée en l'air ou toute faite. Non, il faut prendre le sens radicalement. Il est sans idée, c'est-à-dire sans projection qui fixerait. Comme il est sans idée, il n'y a pas de nécessité qui s'impose à lui. Comme il n'y a pas de nécessité qui s'impose à lui, pas de « il faut », eh bien, il est sans position. Et comme il est sans position, il est sans moi. Là encore, on a traduit « sans moi, sans égoïsme ». Non, sans moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi. Et les commentateurs chinois montrent bien que parce qu'il est sans moi, il est sans idée. Donc ça fait boucle, si vous voulez. Ça fait boucle, et cela renvoie à cette idée qu'au fond, eh bien, de Confucius, on ne peut rien dire. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité. On ne peut pas le qualifier. Quand on demande, mais qui c'est Confucius ? Non, on ne sait pas que répondre. C'est l'homme sans qualité. Parce qu'il est sans idée, sans nécessité, sans position, sans moi. Comment le qualifier ? Puisque tout reste ouvert. Et c'est ça la disponibilité. C'est qu'on maintient l'existence ouverte. Donc tout c'est possible. Eh bien, quand Mencius essaie de deviner ce qu'est Confucius, eh bien, comme on fait comme partout ailleurs, n'est-ce pas ? On fait des typologies. On dit d'une part, il y a les intransigeants, ceux qui, disons, refusent de se souiller pour le bien du monde. Et puis, de l'autre côté, il y a les accommodants, ceux qui sont prêts à se salir les mains pour le profit de tous. Que dire de Confucius ? Est-ce qu'il est intransigeant ou est-ce qu'il est accommodant ? Réponse de Mencius, je trouve très belle. Il est dit, de la sagesse, il est le moment. Il est le moment de la sagesse. Il est aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il le faut, aussi accommodant que les plus accommodants quand il le faut, il est disponible. Donc il ne se fixe, il ne se raidit dans aucune position, il garde tout ouvert. Bon, j'achève en disant simplement qu'il me semble qu'une pensée du dehors, comme la chinoise, à la fois, bien sûr, par ses présupposés, fait résistance à, disons, ce qu'on trouve dans la réflexion européenne, notamment psychanalytique, mais en même temps, me semble-t-il, peut éclairer des aspects de la pratique analytique que le discours analytique n'éclaire pas. C'est-à-dire, au fond, que dans le déplacement si fort qu'opère la psychanalyse dans les soubassements de la théorisation européenne, eh bien, il me semble qu'il y a toujours une sorte de porte-à-faux ou de hiatus possible entre ce que font les analystes et puis ce qu'ils disent qu'ils font. Eh bien, pour essayer de... il me semble que la pensée extérieure comme la chinoise, dans ce qu'elle dérange de la pensée européenne, peut apporter un éclairage de biais pour essayer de repenser ce qui est dans la pratique, mais qui se pense dans la pratique et dans l'avancée pratique d'analyse, et qui ne se pense pas peut-être aussi bien dans le discours théorique qu'on tient dessus. Je pense notamment à la tension flottante chez Freud, qui me paraît être l'expression de la disponibilité. Bien, je vous remercie de la vôtre. Et je...